Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous. L'extension de la déchéance de nationalité, c'est pour elle une faute. Son jugement sur la loi Macron, un grand bond en arrière. Manuel Valls et sa bête noire. À François Hollande, elle a réservé cette formule assassine, le président de personne. A-t-elle encore ne serait-ce qu'un bout de pied dans la majorité où les dernières mesures post-13 novembre l'ont-elles définitivement éloignée? Ce soir, avec Rachid Laïrèche de Libération, Roselyne Fèvre de France 24, nous recevons la députée écologiste et l'ex-ministre Cécile Duflot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ça fait des semaines que ce feuilleton déboussole, divise, fracture la déchéance de nationalité. On le sait, mais la gauche dans tous ses états sera-t-elle gravée dans le marbre de la Constitution? On le saura dans quelques heures, au plus tard demain à la mi-journée, puisque c'est ce contenu de cette révision constitutionnelle est au menu du Conseil des ministres de ce mercredi. Si on s'en tient à ce qui a filtré ces dernières heures, il n'y aurait pas de mention des binationaux dans le marbre de la loi fondamentale. On parlerait simplement de déchéance, tout le reste serait renvoyé à un texte d'application. Ça se passerait donc en deux temps. Alors, Cécile Duflot, si cette déchéance qui concernerait strictement les binationaux, ça n'est pas dans la loi fondamentale, est-ce que ça serait pas une forme de compromis qui pourrait vous permettre de vous abstenir plutôt que de voter contre?
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'à la veille de la réunion de la commission des lois à laquelle je vais participer, quand on vous écoute, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y aura peut-être déchéance, mais pas nationalité, peut-être dans la loi, enfin, on verra. Est-ce que... De quoi parle-t-on? On parle de la Constitution, on parle de ce qui est notre pacte social. Et finalement, pourquoi on est dans cette situation? C'est parce que, quelques jours après les attentats, à Versailles, le président de la République a annoncé une réforme de la Constitution. Et on voit bien, notamment avec son article 1 sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, qui est inutile.
Mais vous-même...
Et donc, je veux juste dire, à partir du moment où cette réforme est inutile, sa fonction était une fonction d'annonce, une fonction de donner le sentiment qu'on faisait quelque chose. Et le débat sur la déchéance a donné ce que vous avez rapidement brossé, c'est-à-dire la stigmatisation, de fait... des binationaux. Alors on peut dire, mais c'était pas du tout ça qui était prévu, certes, mais c'est ça ce qui s'est passé.
Vous dites que c'est inutile, vous dites que ça stigmatise, mais vous-même, le 16 novembre, comme la représentation nationale dans son ensemble, là, vous êtes levé et vous avez applaudi. Alors pourquoi?
Eh bien, vous savez, c'est très intéressant parce qu'en fait, le 16 novembre, j'ai effectivement fait une intervention que j'ai modifiée juste avant de parler, justement parce que le président de la République venait de faire ses annonces. Donc le climat n'était absolument pas, et je l'ai dit, à se dissocier d'une unité nationale qui était nécessaire à ce moment-là. Mais j'ai dit, on ne doit toucher à ces matières qu'en tremblant. Et ça voulait très bien dire ce que ça signifiait. Et puis ensuite, j'ai été interrogée en direct sur une chaîne d'information continue, et j'ai dit que j'avais les plus grandes réserves sur cette question-là. Donc immédiatement, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que tout le monde trouvait ça formidable. On était évidemment dans un moment où ce qui s'imposait à nous tous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu le faire de cette manière-là, était l'unité nationale, et je l'assume. C'était nécessaire à ce moment-là, quelques jours après les attentats.
En d'autres termes, vous considérez que François Hollande a parlé peut-être un peu tôt, qu'il a surfé sur une forme d'émotion?
Je considère, et ça maintenant c'est assez définitif, d'ailleurs c'est le sens d'un amendement que j'ai déposé. En fait, on ne réforme pas la Constitution pour répondre, entre guillemets, à une attaque terroriste. Voilà, je pense que là, fondamentalement, il y a une erreur. Parce qu'on atteint finalement une partie de leurs objectifs, c'est-à-dire d'être aussi important qu'ils en arrivent à bouleverser l'équilibre de nos institutions. Autant l'état d'urgence peut se justifier pendant une période courte, autant l'état d'urgence qui dure, ça devient l'état d'exception, et ça n'est plus l'état de droit, et donc ça n'est pas possible. Et puis, parallèlement, je crois que cette réforme de la Constitution est une erreur, et moi, ce que je crois vraiment juste aujourd'hui, c'est qu'il faudrait arrêter ce processus. Dire que ça n'est plus nécessaire, que la loi de 55 a été encore une fois validée par le Conseil constitutionnel à l'issue d'une QPC, une question préalable de constitutionnalité, donc cette réforme n'est pas nécessaire. Elle divise, elle n'a aucune efficacité pour lutter contre le terrorisme. Là, même le Premier ministre lui-même l'a reconnu, donc on peut s'en arrêter.
Donc je reviens à ma première question. Quoi qu'il arrive, même si il est fait mention de la déchéance pour les binationaux plus tard dans une loi d'application. Quoi qu'il arrive, vous ne voterez rien de ce qui concerne cette réforme constitutionnelle, ni l'article 1, ni l'article 2.
C'est encore plus clair. Je voterai contre la réforme de la Constitution. Je souhaite d'ailleurs que nous soyons nombreux à le faire, parce que je pense qu'il faut retrouver le sens de ce que sont les valeurs profondes de notre pays. C'est évidemment la liberté, l'égalité, la fraternité, mais ça a du sens. La liberté, ça veut dire qu'effectivement, même face à ceux qui nous attaquent, nous continuons de défendre ces principes de liberté. L'égalité, c'est justement de ne pas faire de différence entre les Français. Alors on peut essayer de faire des acrobaties pour que ça ne figure pas dans le texte, tout en figurant dans l'esprit, voire dans la loi qui traduira ce texte. C'est pas possible. Enfin, je dis, il faut en revenir au principe de base. On est dans un moment d'ébullition, dans un moment de glissade. On voit bien qu'un certain nombre de responsables politiques risqueraient de partir avec l'eau du bain, c'est-à-dire de faire le contraire de ce qui les a amenés au militantisme, de faire le contraire de ce qu'ils ont défendu pendant des mois, voire des années. On est dans une inversion des pôles magnétiques politiques. Imaginez cette réforme dans les mêmes circonstances, proposée par Nicolas Sarkozy, les mêmes qui aujourd'hui sont embarrassés, voire seraient en situation de voter pour, auraient été les plus virulents des opposants.
Rachid Lahirache, Libération.
On dit que vous avez rencontré le président à l'Élysée. Est-ce qu'il entend vos arguments et quelles sont ses réponses lorsque vous parlez de la loi, de la déchéance, est-ce qu'il entend, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il répond à vos doutes et votre refus de voter?
Il y a la réponse classique qui consiste à dire mais ça ne vise pas les binationaux sur la question de la déchéance, ça vise les terroristes. Sauf que et là je tiens à le dire que y compris le débat qui a été lancé sur les peines d'indignité nationale voire de déchéance de citoyenneté, enfin ces gens qui sont prêts à massacrer nos concitoyens, finalement ils cherchent aussi une forme de reconnaissance morbide. Et si on va dans ce sens-là, finalement, on contribue à leur donner une forme de reconnaissance. C'est-à-dire que ceux contre qui on voudrait agir, ça ne les émeut pas. Peut-être même que d'une certaine manière, ça participe de leur délire idéologisé. Et à l'inverse, tous les binationaux qui, évidemment, ne pensent même pas une demi-seconde à cette question de commettre le moindre acte illégal ou encore pire terroriste, se sentent mis en porte-à-faux, puisque on se dit il faut répondre à la déchéance de nationalité des binationaux. C'est bien, donc il y a quelque chose à creuser du côté de la binationalité. Donc je pense que le symbole s'est retourné et il est d'une violence très grande.
Il est au courant, il répond, il est inconscient, il...
Écoutez, je pense que s'il était conscient qu'il y avait un certain nombre de difficultés, c'est pas à ceux qui sont les plus opposants à ces dispositions qu'il le dirait, mais j'espère qu'il en est conscient, d'autant que j'entends toutes les arguties diverses et variées. Je ne vois pas comment il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour voter une telle mesure, même dégradée. Pourquoi ? Parce que tout le monde joue à de la tactique aussi. Et c'est ça qui me désole, c'est qu'on fait de la tactique avec les valeurs fondamentales de la République. Ça, je peux
mais
pas l'accepter.
Mais vous savez très bien, Cécile Duflot, qu'il ne peut pas revenir en arrière. Enfin, ce serait se dédire alors qu'il a fait quand même cette promesse, vous l'avez dit, dans un moment grave et solennel. D'ailleurs, comme Anissa le disait, personne n'a moufté, même pas vous. Donc,
je vous ai dit le contraire quand même, hein, mais je vous ai dit que quelques heures après, j'ai dit notamment sur la déchéance. Mais à l'époque, il ne pense. On dit des choses inexactes. Il n'a jamais dit à Versailles que cette mesure figurerait dans la réforme de la Constitution.
Elle faisait partie des mesures qu'il a proposées.
C'est vrai. Mais bon. Aujourd'hui, comme il ne peut pas revenir en arrière, quelle serait la bonne formule pour vous qui soit acceptable ?
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le « comme il ne peut pas revenir en arrière ». Vous savez, quand on va dans une direction dont on se rend compte qu'elle n'a pas du tout les effets qu'on avait...
Les Français sont favorables à cette...
Oui, mais je suis pas sûre de ça. Je pense que les choses évoluent et que, pour une raison très simple, c'est que les responsables politiques ne sont pas les sismographes de l'opinion. Pour une raison très simple, ils ont une responsabilité, ils la prennent, ils sont là parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont des orientations politiques, et c'est exactement ce que je souhaite faire dans ce moment-là. Parce qu'effectivement, on pourrait dire, c'est plus facile de faire comme tout le monde et de dire ce que les gens attendent. Non, c'est pas ça, être un responsable politique. Et donc, là, aujourd'hui, on est dans une situation où l'objectif qui était poursuivi par cette réforme s'est retourné. Et poursuit et de fait crée dans la population française une fracture et des difficultés qui n'ont rien à voir avec ce qui était imaginé. Maintenant, ce genre de moment, on a le droit de changer d'avis. Je crois que le président de la République, il a changé d'avis sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Mmh. Et donc, il le ferait pas sur ce sujet qui peut mettre en péril la cohésion de notre pays. Eh bien, moi, je trouve que c'est dommage. Je suis pas d'accord sur certains sujets sur lesquels il a changé. Force est de constater qu'il l'a fait. Donc, pourquoi il ne pourrait pas le faire là-dessus ? Au contraire, même.
On disait que c'était risqué. On parle des divisions dans la majorité, dans la gauche, au sein du Parti Socialiste, des intimes du chef de l'État. On dit publiquement leur opposition. Vous, qui connaissez François Hollande depuis un certain nombre d'années, vous connaissez l'homme politique qui n'aime pas prendre de risques, qui fait toujours attention. Comment vous expliquez qu'il ait pu prendre un risque pareil ?
Pour une raison que vous avez soulevée d'ailleurs dans votre question, c'est dire mais vous pouvez pas... vous dédire, vous ne pouvez pas faiblir face à cette menace.
Au moment où il prononce cette phrase, au moment où il propose cette mesure.
Mais parce que donc,
on est
au
sous
moment...
le coup de l'émotion, oui.
Oui, parce que tout le monde est sous le coup de l'émotion, je l'ai dit.
Lui aussi.
D'ailleurs, ça a été, mais bien sûr, et ça a été, c'est intéressant, ça a été fortement...
Donc ce n'est pas un responsable politique.
Mais bien sûr que si. Et vous savez, heureusement que les responsables politiques ne sont pas des machines. Sinon, on n'a pas besoin d'être humain. Moi, je revendique que le président de la République soit un homme qui a été ému quand il est rentré dans le Bataclan, mais c'est normal et c'est heureux. Qu'il ait été choqué par cette chose monstrueuse qui était faite pour choquer, mais bien sûr. Et qu'il ait pu prendre, faire des annonces et dire des choses qui étaient provoquées aussi par le fait qu'il se disait il faut apporter une réponse forte, c'est aussi sans
vous savez, François vrai. Hollande était réputé pour être un animal à sang froid.
Mais bien sûr, tout le monde est un animal à sang froid. Il n'y a que des responsables politiques qui sont des animaux à sang froid. Le président François Mitterrand, par amour pour sa fille, a fait des choses complètement baroques. Personne n'est un animal à sang froid. C'est une légende. Il y a des gens qui sont plus calmes que d'autres. Et il y en a qui ont effectivement qui devraient avoir un tout petit peu plus de sang froid. C'est possible. Mais il est parfois logique qu'il y a des moments où on ait une erreur dans l'évaluation. Et je pense que c'était une erreur d'évaluation que de croire que la réponse à des attentats était la modification de la Constitution. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, j'ai fait un amendement pour dire, pour interdire toute révision de la Constitution en période d'état d'urgence d'utilisation de l'article 16, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas réviser la Constitution sous le coup de l'émotion. Voilà. Pour moi, je pense que c'est une erreur fondamentale. Il faut que vous entendiez, parce que votre introduction a été très brutale. Je ne fais pas reproche au président de la République. Je pense qu'il s'est trompé, ça n'est pas la même chose. Et je ne sais pas qui lui a conseillé, est-ce que c'est lui qui a décidé, et je ne lui en voudrais pas, et même je saluerais s'il décide de changer. Parce que oui, c'est une réalité que les binationaux de ce pays ont pris en pleine face cette proposition. C'est une réalité. Et ça a beaucoup d'effets, et d'effets négatifs.
Sur l'état d'urgence, vous êtes aussi contre le renouvellement de cet état d'urgence
Alors
le 26 février à 3 mois de
plus. C'est très simple, j'ai voté la prolongation de l'état d'urgence et j'avais déposé un amendement pour dire que cette prolongation ne devait pas excéder 2 mois. Ce qui me semblait qu'une période qui couvrait la COP21, les fêtes de fin d'année et l'anniversaire des attentats du 7 janvier me paraissait être la bonne durée. Moi je suis pas favorable à la prolongation de l'état d'urgence, parce que si on prolonge l'état d'urgence, c'est la même logique. C'est dire oui, mais si on le fait pas, on va nous le reprocher. Mais à ce moment-là, on sera en état d'urgence. C'est d'ailleurs la phrase extrêmement malheureuse du Premier ministre de dire il y aura l'état d'urgence tant qu'on n'aura pas vaincu
Daesh. Et il a ajouté, juste après, on ne peut pas vivre en état d'urgence tout le temps. Donc on s'est beaucoup interrogé sur cette fameuse phrase. En tout cas, il est revenu là-dessus. On a eu le contenu entier de cet entretien à la BBC. Manuel Valls, semble-t-il, n'a pas exactement dit qu'on resterait en état d'urgence permanent. Qu'est-ce qui s'est passé quand cette phrase a été sortie ? Est-ce que c'est naturel ?
Regardez le calendrier et allez voir la difficulté. La proposition qui est faite, c'est de prolonger de 3 mois, donc jusqu'au 26 mai. Quelques jours après le 26 mai, il y a ici des gens plus spécialistes que moi du football, mais c'est
l'Euro.
Donc on va dire, on ne peut pas lever l'état d'urgence pendant l'Euro. Et puis ensuite, on se rapprochera de la prochaine présidentielle. Moi, je ne veux pas que mon pays se mange des mois et des mois d'état d'urgence. Ça n'est pas possible. Et puis, je vais vous dire une autre chose. Souvenez-vous de 1995. 1995, c'est 8 attentats en 3 mois. Dans un TGV, dans une rame de RER, devant une école juive, sur un marché. C'était très violent. Personne n'a même envisagé cette hypothèse d'installer l'état d'urgence. Pourquoi ? Parce que je crois qu'effectivement, la grande difficulté pour un responsable politique, c'est de pouvoir ne pas être en vigipirate écarlate, plus en état d'urgence. Et s'il y a un nouvel attentat, qu'est-ce que nous ferons ? Donc il faut garder, je le redis, nos nerfs froids, apporter les bonnes réponses, ne pas faiblir. Je suis une écologiste qui voterait l'augmentation significative des personnels des services de renseignement, parce que je pense qu'effectivement la menace est plus importante et nous avons besoin de davantage de monde. Mais c'est aussi être un responsable politique ou une responsable politique que de pouvoir dire... Ça n'est pas parce que nous allons donner le sentiment par des effets d'annonce que nous vous protégeons que ça fonctionne. Il faut trouver les bonnes réponses.
Sauf que Cécile Duflot, la société française n'est pas du tout dans le même état en 2015. 20 ans après, on a une société qui est davantage fracturée, qui est divisée. On a un Front National et on en a beaucoup parlé au régional, qui est plus qu'en embuscade, qui est extrêmement présent. Dans l'entourage du président, on le dit beaucoup, le souci en établissant l'état d'urgence, c'était de montrer qu'il y avait des mesures qui étaient prises et d'éviter des potentiels débordements aussi. Il y avait cette inquiétude-là. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre ?
Je pense qu'il y a un élément erroné dans l'analyse. Je pense justement, effectivement, que c'est vrai. Notre pays est plus fracturé, plus vulnérable, et que donc il faut être beaucoup plus calme.
Le terrorisme venait de l'extérieur aussi, à l'époque, dans les années 95, dont vous parlez. Aujourd'hui, il vient de l'intérieur.
De la même manière. Oui. Mais c'était aussi des jeunes hommes élevés dans les banlieues de Lyon. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Et surtout, je pense
qu'il n'y avait pas ces départs de jeunes massifs. Oui. La
Syrie, c'est pour ça qui reviennent.
Et vous croyez que c'est l'état d'urgence qui va empêcher ça?
Mais attendez,
et, alors, et un discours martial, je pense qu'il faut que nous retrouvions un discours de calme, un discours de fermeté, certes, il n'y a aucune mollesse de ma part, mais un discours de calme, un discours de responsabilité. Oui, nous devons nous poser des questions, et oui, nous devons expliquer pourquoi des jeunes hommes qui sont passés par toutes les institutions de la République, l'aide sociale à l'enfance, l'éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse, l'administration pénitentiaire arrive à basculer sans qu'on l'identifie dans ce genre de
expliquer, qui n'est donc pas excusé, comme l'a dit le Premier ministre
c'est d'ailleurs justement,
il y a quelques jours.
C'est d'ailleurs justement en expliquant, en cherchant à comprendre les racines et les raisons, qu'on arrivera à être utile pour éviter que se passent d'autres drames. Parce que moi, mon obsession en tant qu'habitante et députée du 11e arrondissement, c'est que ça ne se reproduise pas. Et pas qu'on donne l'impression, vous l'avez dit, donner l'impression aux Français qu'on fait quelque chose. Moi, je veux que nous agissions, pas que nous donnions l'impression. Et je pense que c'est un piège que d'augmenter en permanence la rhétorique de l'autorité, les mots de guerre, etc. Parce que c'est une escalade dont on ne se sort pas.
Cécile Duflo, je vous demande une fois de plus de vous mettre à la place de François Hollande. Si il y avait un nouvel attentat et que l'état d'urgence n'était pas renouvelé, imaginez les critiques.
Bien sûr, mais avec cette logique-là, on peut décider l'état d'urgence pendant 50 ans. Hein?
Oui, mais enfin, vous savez très bien que le curseur du risque d'attentat, il est très fort. Il est sur une échelle de 1 à 10, on va dire qu'il est sur 8 ou 9.
Vous savez, c'est typiquement... D'où vous sortez
Écoutez, j'avais comme invité, pardon, le ministre de la Défense qui nous l'a dit la semaine dernière. Les politiques.
On a eu une nouvelle vidéo de menace dimanche dernier.
Oui, bien sûr. Vous savez, Daesh. C'est pour le coup, moi, ça m'intéresse d'expliquer, et j'ai rencontré des spécialistes, dont des chercheurs, dont certains qui ont fait le reproche, d'ailleurs, que les politiques ne les aient pas assez écoutés. Je pense que nous devons, en parlant de moyens, donner des moyens aux services de renseignement, donner des moyens aux chercheurs aussi, pour bien connaître la réalité de la menace. Et Daesh, c'est 50% d'idéologie, 50% de communication. Et cette vidéo, citée par le Premier ministre tout à l'heure lors des questions au gouvernement, ils ont réussi leur objectif.
Que le président de la République lui-même a commandé.
Oui, mais bien sûr, mais je pense que c'est une erreur. Nous tombons dans leur piège, c'est-à-dire que nous leur donnons un statut d'interlocuteur.
Il faut ignorer.
Et sinon, non, il ne faut pas du tout ignorer. Il faut être très lucide. Mais je crois qu'il ne faut pas d'abord contribuer à inquiéter les gens, parce que... Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'empêche mes enfants de prendre le RER, j'empêche mes enfants de prendre le métro, d'aller au lycée, puisqu'il y a eu une alerte à la bombe cet après-midi dans les lycées parisiens.
Mais le mythe du califat, c'est une idéologie, c'est pas du fantasme.
Mais c'est ce qu'on
voit en Irak, en Syrie.
Vous n'avez pas écouté, 50% d'idéologie, 50% de communication.
Enfin, l'idéologie, elle fait mal.
Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut lutter contre cette idéologie de manière très claire. Il faut l'expliquer, il faut la déconstruire. Il faut lutter contre ceux et contre les méthodes qu'ils utilisent pour recruter. Il faut assécher ce vivier, il faut faire ce que disait Germaine Tillon pour faire face au terrorisme. Pas seulement des opérations de police, mais lutter contre ce qui l'engendre. Et c'est ça la question qui nous est posée. Évidemment, elle est plus difficile. Elle est moins immédiatement communicable. C'est très simple de décréter l'état d'urgence d'une certaine manière. C'est une annonce et on a le sentiment de faire quelque chose. Moi, je vous pose la question différemment. Si jamais, alors qu'il y a l'état d'urgence, il y a un nouvel attentat, qu'est-ce qu'on fait? On aura fait l'état d'urgence, la réforme de la Constitution, qu'est-ce qu'il faut annoncer encore?
Non, mais
Rachid Lahirach,
bon, ce serait bien pire si c'est le contraire.
Est-ce que la France est en guerre?
Moi, je ne crois pas que la France soit en guerre au sens où la guerre est encadrée dans les pratiques internationales. Ça donne des droits aux prisonniers de guerre, par exemple. Et puis, surtout, on peut signer la paix. Et là, vous avez raison. L'idéologie du califat fait qu'on signera jamais la paix avec Al-Baghdadi. Ça n'existe pas. Donc, je pense que nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes, oui, victimes d'actes qui sont des actes de guerre, parce que quand on nous attaque avec des armes automatiques, avec la pratique qui a été utilisée, oui, c'est de cette nature-là. Et dans cette idéologie-là, il y a la volonté, pas seulement de nous faire la guerre, mais d'essayer, et c'est pour ça que je dis que nous devons être très calmes, d'essayer de faire naître en Europe et en France, ou particulièrement, une guerre civile. Et ce risque-là, nous devons l'identifier, puisque l'idée est d'instiller les ferments qui feraient brûler notre propre société, avec les choix des cibles, avec le durcissement sur le discours relatif à l'islam. C'est ça sur lequel il faut être très vigilant.
Merci Cécile Duflo. Je rappelle que vous êtes députée écologiste. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler notamment primaire à gauche. Ça sera juste après les informations. We'll be right back.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi politique, deuxième partie avec Cécile Duflot, députée écologiste, ex-ministre du Logement, Rachid Laïrèche, Libération, Roselyne Fèvre, France 24. Alors, on va parler primaire à gauche d'un dossier qui tient à cœur aux écologistes, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais avant ça, Roselyne Fèvre avait une petite question.
Oui, Najat Vallaud-Belkacem est critiquée très fortement et la polémique enfle parce qu'elle était invitée sur un plateau de Canal+. Elle était face à une ONG islamique donc dont le personnage expliquait clairement qu'il ne serait pas la main aux femmes et il était assez ambigu sur la condamnation de Daesh. Est-ce que vous comprenez le manque de réaction de Najat Vallaud-Belkacem? Est-ce que vous auriez réagi plus violemment?
Je vais être franche avec vous, oui. J'ai pas regardé l'émission, mais c'est vrai que des réacs machos insupportables qui, pour des raisons d'ailleurs soi-disant religieuses, décident de pas serrer la main des femmes ou de considérer qu'elles doivent rester à la maison, il y en a dans tous les camps religieux. Il y en a chez les cathos, il y en a chez les musulmans, ça peut arriver aussi chez les juifs, donc je pense qu'il faut pas tout confondre. Ensuite, sur les propos qu'il a tenus lui-même, je pense qu'effectivement, il y a une forme d'ambiguïté. Mais cette forme d'ambiguïté provient du fait qu'il essayait d'expliquer qu'il devait y avoir une autre forme d'engagement proposée aux jeunes avec une connotation religieuse. Je dois dire que je ne partage pas tellement cette vision-là.
Le manque de réaction de la ministre.
Elle a dit qu'elle ne voulait pas lancer une polémique avec lui pour lui faire de la publicité. C'est un argument que je peux entendre. Et par ailleurs, je pense qu'on peut être très clair sur un certain nombre de choses et que personne, surtout étant donné ses fonctions précédentes, n'imagine que Najat Vallaud-Belkacem a une quelconque ambiguïté sur la nécessité qu'il y a de prôner l'égalité femmes-hommes et de refuser qu'on considère qu'on ne serre pas la main des femmes parce que c'est des femmes.
On va en venir au dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est près de Nantes. Ça fait très longtemps que les écologistes s'opposent à sa construction. Lundi, la justice a autorisé l'expulsion d'opposants historiques au projet. Tout à l'heure, vous avez posé une question au Premier ministre à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Voilà en substance qui vous a répondu.
S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas trahir, Madame la Présidente, c'est le respect de la justice. On ne peut pas en rappeler en permanence au droit et dès qu'il y a une décision de justice, la constater. Madame Duflot, les collectivités locales ont unanimement salué cette nouvelle étape. Il s'agit de qui, Madame Duflot ? Du président du conseil départemental ? Du président du conseil régional qui est sur la même position que son prédécesseur ? De la maire de Nantes ? De plusieurs parlementaires ? De l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dont vous étiez vous-même membre du gouvernement ? Ont-ils tort, Madame Duflot ? Connaissent-ils moins bien que vous la réalité du terrain et les attentes de l'économie sur ce secteur ?
Alors, Manuel Valls vous donne du Madame Duflot, réponse sévère, hein, on l'a compris. Alors, qu'est-ce que vous dites
Et surtout, il n'a pas répondu à ma question. Ma question était très simple. Le 15 janvier 2015, sur l'antenne de France Inter en direct, le président de la République a dit « Il n'y aura pas de début des travaux tant que les recours, tant qu'il y aura des recours en justice », puisque le Premier ministre parle de respect de la justice. Il y a, au moment où je vous parle, 17 recours. 17 recours, dont certains au niveau européen. Donc, bien sûr qu'il oublie de le dire. Et ma question était de dire, est-ce que la parole du président de la République sera tenue et sera respectée? Et il n'a absolument pas répondu à cette question.
Il vous répond que l'aéroport se fera. Oui, c'est fini?
Non, mais vous savez, l'aéroport se fera, c'est un mantra d'un certain nombre de dirigeants politiques depuis 1963. Depuis 1963, ça fait donc 53 ans maintenant que l'on dit l'aéroport se fera avec un air martial. Mais si cet aéroport ne se fait pas, c'est qu'il a une faille profonde. Il est inutile. C'est un aéroport inutile, et y compris certains de ses promoteurs, quand vous discutez avec eux.
Mais ce qu'il vous dit, le Premier ministre, toutes les collectivités locales sont pour.
Oui, alors il cite, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est l'autre désaccord. Il cite des présidents de conseil général, présidents de conseil départemental. Mais on voit bien que la contestation, elle est plus large et elle existe. Elle est aussi de beaucoup de citoyens qui, en plus, et c'est là le deuxième point sur lequel il n'a pas répondu, les opposants à Notre-Dame-des-Landes, dont je suis, sont prêts à un débat sur une étude indépendante et transparente qui montrera que le projet tel qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2008 était fondé sur de faux chiffres, des études erronées, tant sur le développement du transport aérien que sur un certain nombre questions relatives à la saturation de l'aéroport existant. Ce sont des mensonges. Donc quand on a pris une décision qui a toutes les apparences, effectivement, la légalité, mais sur des éléments qui étaient au mieux erronés, au pire falsifiés, est-ce que c'est juste ? Moi, je pose la question de la justice. Quand on dit effectivement, voilà, la décision, elle doit s'appliquer, mais on a menti pour la prendre d'une certaine manière. Et c'est pour ça que les opposants sont prêts à la transparence et de dire attendons tranquillement que cette étude indépendante soit faite. S'ils sont si sûrs d'eux, s'ils sont en capacité de prouver l'intérêt de cet aéroport, la nécessité de construire un nouvel aéroport, nous verrons.
Donc vous ne jetez pas l'éponge.
Et deuxième chose, non, moins que jamais. Deuxième chose, nous avons vécu la COP21 avec de grands discours, la main sur le cœur, le marteau de Laurent Fabius pour dire qu'il fallait tout changer, que le défi du dérèglement climatique nous imposait un changement prodigieux. Et nous, on s'obstinerait à construire un aéroport du passé qui va en plus démolir des zones humides et des exploitations agricoles. Ça a quel sens? C'est contradictoire avec les engagements qui ont été pris.
Les engagements, enfin, c'est en tout, c'était pas en tout cas dans l'accord de législature sur, en 2011.
Mais c'est
vous aviez
mis
Notre-Dame-des-Landes.
Ah non, 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 je suis très, très modeste. Je vous parle juste des engagements qui ont été pris devant l'ensemble des pays du monde sur la nécessité de limiter de façon bien inférieure à 2 degrés et au mieux à 1,5 degré, le réchauffement climatique.
On va parler de la primaire pour toute la gauche, cette fameuse initiative, fameusement c'est dans le journal Libération il y a quelques jours. Cécile Duflot, vous aviez dit que vous étiez prête à y participer. Vous parliez aussi de la légitimité perdue pour François Hollande. Sérieusement, vous croyez que le président de la République viendrait dans cette primaire participer à ces débats?
Mais il ne s'agit pas de croire. Il s'agit de se donner les moyens politiques de dire que nous sommes dans une situation, on en a parlé tout à l'heure, on est cul par-dessus tête. C'est-à-dire que le président de la République, qui a été élu par une partie de la gauche, dont j'ai fait partie, qui l'a soutenu, puis aussi par des centristes et des gens plutôt humanistes qui en avaient marre de la politique menée par Nicolas Sarkozy, et notamment de ses dérives après le discours de Grenoble. Et le débat était déjà celui de la déchéance de nationalité, qui fait donc le contraire de ce pourquoi il a été élu, serait pas en situation de devoir rediscuter de ce qui fonde la légitimité de la candidature des uns et des autres. Je pense que c'est une très bonne chose et je soutiens l'initiative de la primaire parce que ça fait craquer les coutures du débat politique. Parce qu'enfin, on peut reparler de ce qui fait le fond de ce que nous devons faire. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour lutter contre le dérèglement climatique? Sur la question du chômage, est-ce qu'on continue dans cette folie de la baisse des cotisations comme seul horizon et puis maintenant de l'augmentation du temps de travail. On a des millions de chômeurs et la solution, c'est de faire travailler pour des heures supplémentaires à peine davantage payées ceux qui travaillent aujourd'hui. Est-ce que ça va apporter une solution au problème? Est-ce qu'il ne faut pas affronter un monde qui va être durablement un monde à bas niveau de croissance? C'est la contribution de Dominique Méda dans Libération aujourd'hui. Je pense que c'est ça les questions qui nous préoccupent et qu'il faut aller au bout parce que sinon, nous n'apporterons pas de solution politique pertinente.
Non mais une primaire, ça sert effectivement à débattre de la ligne, à avoir des débats de fond. Scénario fiction, vous obtenez cette primaire, François Hollande la gagne, avec tout ce que vous venez de nous dire, avec tout ce que vous contestez, est-ce que vous pouvez vous engager à le soutenir et être derrière lui?
Très clairement, je suis pour cette initiative de la primaire. À partir du moment où je m'engagerai à participer à un processus, j'en respecterai évidemment les règles. Ça, pour le coup, vous savez, moi je suis très simple. Vous avez évoqué l'accord que nous avons passé en 2011. Cet accord, il a été tenu par nous, parce qu'on dit souvent qu'il a conduit à élire des députés écologistes. C'est vrai. Mais plusieurs dizaines, voire sans doute plus de 100 députés socialistes, grâce au soutien des écologistes au deuxième tour notamment, il a pas été respecté. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui le choix de la politique menée par le Premier ministre Manuel Valls est très clair. J'avais bien identifié que la ligne politique qu'il porterait ne pourrait pas conduire à ce que des écologistes puissent être membres de son gouvernement. C'est la réalité. Mais si cet accord avait été tenu, je vous parlerai ce soir
et
en tant que membre du gouvernement.
Vous présentez à la présidentielle?
En fait, on va éviter les si. C'est-à-dire que moi...
Mais bon.
Mais bien sûr, parce qu'on va...
La vie est faite de si.
Exactement. Mais d'abord, l'option, c'est de faire en sorte que ce débat-là avance et de redonner surtout un peu d'espoir.
Non, mais vous avez envie d'y aller, mettons?
Mais c'est pas une question d'envie. À un moment, il faut avoir envie.
Une question d'appétit.
Non, pas que. C'est une question aussi de nécessité. C'est-à-dire que quand j'ai dit que je me préparais à pouvoir éventuellement être candidate à la présidentielle, c'est que je pense qu'effectivement, ça nécessite un travail préalable. Ça nécessite une mise en condition. Mais pour moi, il n'y a absolument rien d'évident à ce stade. Il y a une seule chose évidente. C'est que le cœur de mes convictions, ce qui fait que je me suis engagée en politique il y a 15 ans, ce qui fait que je suis ici devant vous, est aujourd'hui... touchée, ébranlée par ce qui se passe. Je ne peux pas admettre que mon pays que j'aime, soit en train de glisser dans ces fractures, dans ces tensions, dans cette hystérisation du débat politique. Et donc je souhaite absolument que nous remettions du calme et que nous remettions du sens, profondément du sens, y compris pour les jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans la vie active, les enfants qui naissent, qui vont devoir vivre dans un monde profondément perturbée, qui n'aura rien à voir avec ce que nous connaissons. Et nous devons faire naître des intelligences qui seront des intelligences réactives, pas des gestionnaires, qui seront capables de s'adapter, je le dis, à un monde profondément transformé. Nous sommes capables de voir que la France aujourd'hui, ça n'est pas la France d'il y a 50 ans. Ça n'est pas dans même sa sensibilité, dans sa représentation, et qu'aujourd'hui, une partie de la vie politique est déconnectée de la vie de ce pays. Et je rentre pas dans le débat facile sur les politiques en général. Non, il n'y a pas tous les politiques en général. Moi, je me sens pas très proche d'un certain nombre de mes collègues députés. Je me sens, parce que mon parcours n'est pas le même, parce que mes engagements ne sont pas les mêmes, mais je crois en la politique. Je crois qu'on peut décider des choses collectivement.
Et vous croyez au progrès? Parce que on parle beaucoup de la lubérisation de la société aujourd'hui, qui nécessite une mutation. Donc, des choses qu'il faut, des adaptations qu'il va falloir accepter, et il faut s'adapter. On a l'impression, par exemple, les écologistes refusent, ont un peu une culture de la refus du progrès.
Mais qu'est-ce que c'est le progrès? Moi, je veux bien répondre à votre question si vous me définissez le progrès.
Non, mais par exemple, mettons sur les...
Le progrès, c'est l'épidémie de cancer? C'est bien ça?
Mais
le progrès, c'est que nos gamins...
Sur le gaz de schiste, enfin, je veux pas oui monopoliser parce qu'il y a d'autres questions, mais par exemple, sur le gaz de schiste, au nom du principe de précaution, on ne fait rien, on ne fait même pas de recherche.
Et donc, multiplication des tremblements de terre aux États-Unis, c'est le progrès? Moi, je pose la question, qu'est-ce que c'est le progrès?
Il y a une multiplication des tremblements de terre.
Bien sûr, ça a été identifié à cause des fracturations souterraines. Oui, ce sont des géologues qui l'ont montré, y compris avec des conséquences très éloignées. Moi, je suis favorable au progrès quand il améliore la vie de mes concitoyens, quand il prépare une planète plus facile, plus agréable à vivre pour nos générations et les générations qui viennent. Et oui, bien sûr que je suis pour le progrès, mais je pense que ce progrès, celui que nous devons appeler de nos voeux, c'est un progrès qui répare l'idée de progrès du XXe siècle. Cette idée de progrès que vous venez d'avancer, c'est-à-dire que le progrès technique par essence serait bon. Non, c'est pas bon d'avoir fait des moteurs diesel qui ont empoisonné des millions de poumons.
C'est
non, c'est pas bon qu'il y ait plus de 40% des enfants de moins de 14 ans en 15 ans qui aient de l'asthme. Non, ça n'est pas le progrès, c'est pas vrai. Et non, ça n'est pas le progrès qui est davantage de consommation de médicaments psychotropes parce que les gens ont du mal à supporter une partie de leur vie ou la solitude. Non, ça n'est pas le progrès. Moi, je sais ce que je veux comme progrès, je sais ce que je ne veux pas. Et je ne veux pas du tout de ce discours simpliste qui consisterait à dire, vous l'avez sous-entendu, que le principe de précaution, c'est contre le progrès. Non, le principe de précaution, c'est très intéressant. C'est un principe qui permet d'évaluer si ce que l'on fait est plus utile, présente plus d'avantages que d'inconvénients pour notre vie collective. C'est ça qui est très intéressant. C'est justement pas se lancer dans une espèce de folie. Je vais vous dire ce qui s'est passé à Bure et vraiment émue
dans
pour les
Meuse familles. Cet après-midi.
Dans la Meuse cet après-midi.
Donc c'est un centre d'enfouissement
des
de
déchets nucléaires. Pourquoi? Parce que quand on a lancé le programme électronucléaire dans les années 60 en France, on a dit aux décideurs politiques OK, on a un petit sujet avec le nucléaire, c'est que les déchets sont radioactifs pendant des millénaires. Un peu ennuyeux. Mais vous inquiétez pas, on va résoudre le problème. D'ici 30-35 ans, on saura supprimer la radioactivité. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas, la seule solution qu'on envisage, c'est d'enterrer ces déchets pendant des milliers d'années à une très grande profondeur.
Là, vous prenez les pires exemples.
Ah non, je prends des exemples concrets, très concrets.
Oh, Rachid Lahirèche, Libération, une question.
Toujours la primaire, une dernière question.
Pardon.
La primaire, c'est avec Hollande, ou bien si Hollande refuse d'y aller, il n'y a aucune primaire? Parce que l'autre gauche peut aller construire une primaire et vous pouvez envisager une primaire sans François Hollande.
Moi, je ne sais pas ce que c'est l'autre gauche pour une raison très simple, c'est que je suis écologiste. Je suis écologiste, donc je suis héritière des valeurs de gauche et héritière des valeurs de justice sociale, d'émancipation, d'égalité des droits. Voilà. Mais l'autre, la meilleure, celle qui serait... J'ai pointé depuis longtemps mon désaccord avec Jean-Luc Mélenchon qui se revendique de l'opposition de gauche.
De toute façon, lui, il veut pas participer à cette
primaire.
Oui,
mais justement, moi je pense qu'il faut qu'elle soit la plus large possible. C'est-à-dire, en fait, il faut la primaire, c'est une espèce de patch, comme on dit pour les logiciels qui ont ou les applications qui ont un problème sur la 5e République. Ça fait une sorte de troisième tour. La meilleure solution serait de mettre en œuvre la réforme qui avait été proposée par le comité Vinocq-Bartolone, c'est-à-dire septennat unique, proportionnelle inversion du calendrier. Parce que la primaire, c'est une solution dégradée à une situation ubuesque, celle de cette 5e République présidentialisée où tout procède du président. Moi, j'ai été très choquée par une phrase de Christiane Taubira. La parole première et la parole dernière est celle du président de la République. Mais vous vous rendez compte ce que ça signifie? C'est quasiment un empereur. Il n'y a plus de vote. Il n'y a plus de débat parlementaire.
C'est alors justement, on n'a pas tout. Parlé de Christiane Taubira. Christiane Taubira a eu cette phrase le 23 décembre quand il est annoncé que le président de la République maintient le principe du déchéance de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Vous avez été proche de Christiane Taubira quand vous étiez au gouvernement. Vous comprenez qu'elle y reste, qu'elle reste garde des Sceaux, alors qu'elle est fermement opposée à cette mesure.
Pour être franche, non, je ne comprends pas, mais elle doit avoir ses raisons.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est tout.
Les mauvaises langues disent par exemple qu'elle est ravie d'être au gouvernement, d'être garde des Sceaux, d'avoir un Marocain.
Oui, mais moi je suis une bonne langue.
Et donc vous comptez sur sa bonne foi ?
Mais
aller à la culture dans un ministère où il aurait moins affronté ce type de choses, ça serait plus compréhensible ?
Les blablabla de remaniement, de machin, non. Même moi, en fait, ça me fatigue. J'ai tellement vécu que...
Alors, je vais vous poser la question autrement. Christiane Taubira, qui a été... les gens qui l'aiment moins disent d'ailleurs, c'est une rockstar, qui est très applaudie, notamment quand elle vient à La Rochelle, au Rassemblement Socialiste, qui pour certains ressent, est une forme de... incarne une forme de fondamentaux de la gauche. Est-ce qu'elle n'a pas abîmé son image en restant malgré tout au gouvernement alors qu'elle est opposée à une mesure d'importance?
Je ne suis pas une analyste politique, moi je suis une actrice politique.
Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez ben vous moi, qui avez été proche d'elle, qui avez fait un bout de chemin avec elle?
Et ben écoutez, moi je sais ce que j'ai fait quand j'ai eu la conviction que je ne serais pas en accord avec la position politique globale d'un gouvernement. Je suis partie. Donc voilà, je peux vous répondre pour moi et sur ma capacité de décision et d'analyse. Je vous dis, le choix qui est le sien lui appartient et puis il faut lui poser la question à elle. Je ne peux pas répondre à sa place, ni dans un sens, ni dans un autre.
On parle beaucoup primaire. On n'a pas parlé celle de la droite puisque la droite va faire sa grande première cet automne. Alors dans ce cadre, c'est un petit peu la mode entre guillemets des « mea culpa ». Roselyne Favre peut vous en parler. J'ai une petite question.
Oui, le
sur
mode
ce sujet.
Est à l'auto-flagellation. Sarkozy, Copé, le Front National, même si on ne les met pas dans le même sac, repense sa politique économique. On ne parle plus de sortie brutale de l'euro. Donc, vous, si vous deviez vous repenter de quelque chose, ce serait quoi? Je vous guide un petit peu, la politique du logement.
Ça va pas bien. La politique du logement, j'en ai une fierté absolue. Ah non, mais alors là,
l'effondrement de la construction, ça a tué quand même
mais c'est n'importe
un demi-point.
Quoi.
Non, mais... Selon l'INSEE, un demi-point de croissance
mais
du
c'est,
PIB.
Mais c'est, ça n'est pas la, ni la loi Allure. Vous savez, on va s'approcher de l'anniversaire et je vous le dis, je me suis tue sur le sujet. J'ai laissé raconter, comme vous le dites, n'importe quoi.
C'est les chiffres de l'INSEE.
Mais c'est pas les chiffres de l'INSEE. Les chiffres de l'INSEE, ils pointent que nous sommes en crise. On a 0,
les mesures sur le bâtiment.
Non, mais l'INSEE ne peut...
de la construction.
Ouais, mais vous voyez bien,
on
ne veut pas mettre en cause... du
de
tout.
La construction.
Il n'y a pas d'effondrement de la construction causée par la loi Allure. Il y a une crise de la construction qui date de 2008 et qui est née de la crise en général et qui est partout en Europe. C'est quand même la plus géniale des lois, celle qui a réussi à anticiper avant son vote une crise et en plus à la provoquer partout en Europe. Non mais vraiment, je pense qu'il y a une espèce de mantra complètement fou qui s'est raconté. J'ai laissé faire parce que je suis convaincue qu'en la matière, l'histoire répond.
Donc
vous savez, on a célébré il n'y a pas longtemps les 15 ans de la loi SRU. Cette loi sur le pourcentage de logements sociaux. C'est très croquignolet.
En gros, que les communes riches mettent au pot pour les communes beaucoup plus pauvres.
Doivent avoir un minimum de logements sociaux dans toutes ces... Voilà. À l'époque du vote de cette loi, qui la première fois n'a pas pu être votée, une partie de la droite était mais folle de rage contre cette loi. Et maintenant, elle dit que c'est bien.
Voilà. Donc, oui, sauf que tout le monde ne l'applique pas. Oui.
Voilà. Ah, mais si, puisque grâce à la loi que nous avons votée en septembre 2013, désormais le quintuplement des pénalités fait que les choses ont changé. Effectivement, il lui manquait un effet dissuasif plus important. La loi Allure, je pense que c'est une bonne loi pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce n'est pas le résultat du travail de la ministre que je fus, mais le résultat de beaucoup de travail parlementaire, qu'elle embrasse beaucoup de sujets, qu'elle essaye de mettre à niveau un milieu, le monde des professionnels de l'immobilier, qui pendant des années était resté très en retrait sur la formation.
Mais vous ne contestez pas l'effondrement de la construction ?
Je conteste le lien entre la loi Allure et la question de la construction. Je pense que oui, il y a un problème, il y a une crise de l'immobilier en France, mais que ça principale raison, et celle-ci n'est évidemment jamais dite par certains professionnels courageux, c'est le prix trop élevé de l'immobilier en France. Il est complètement démesuré par
donc
rapport...
Pas le mea culpa pour vous
de votre... Non mais je pense que
non
là...
Non mais en général.
Ça vous ferait plaisir que je fasse un mea culpa?
Non, je m'en fiche, mais comme tout le monde en fait, je me dis que...
Ah oui, bah, vous savez, alors là, pour le coup, je vais vous décevoir. Déjà, je suis une écologiste. Ensuite, je suis assez libre. Deuxièmement, je peux dire que parfois, j'ai fait des erreurs. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur mon bilan au gouvernement où j'ai dit un certain nombre de choses que je crois avoir bien faites et d'autres sur lesquelles je pense que, même si je sais pourquoi j'ai pris ces décisions à ce moment-là, peut-être que j'aurais dû faire autrement. Mais je pense que, justement, ce que vous dites sur la mode du mea culpa, sur cette espèce de figure de style où, en plus, on sent l'insincérité qui déborde par toutes les pores, c'est pire que tout en fait. Mais voilà.
Alors on approche de la fin de cette émission. On a une petite dernière séquence avec des questions courtes, des réponses courtes. Je vais commencer. Cécile Duflot, souvent vous dites que vous écoutez de la musique, vous communiquez beaucoup là-dessus sur Twitter. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? J'écoute des choses très 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 différentes. Mais hier soir à minuit, comme tout le monde, j'ai écouté la nouvelle chanson de Renaud avant de m'endormir et ça m'a fait hyper plaisir. Oui, d'accord, ouais. Elle est pas géniale, c'est ça.
Non, c'est une question.
Il y en a que je préfère. Moi, j'aime. C'est quand ça m'a fait plaisir, justement, que l'histoire qui était racontée, c'était celle de sa déchéance, etc. L'espèce de voilà de
la rumeur.
C'était pire que la rumeur, c'était utilisé. Donc j'aime bien les gens qui sont pas là où on les attend. Et j'attends les autres chansons parce que je suis sûre qu'il y en a qui sont mieux.
Rachid Lairèche.
Temps de travail, 32 heures, 35 heures ou...
Moi je pense que la question de la baisse du temps de travail, elle est posée. Elle est posée par un niveau de chômage très élevé, un niveau de croissance très faible. Il faut qu'on aille vers un modèle à bas niveau de croissance, intense en emploi. Je pense que cette question-là, elle doit s'ouvrir de manière à la fois très responsable et sans tabou, et elle, sans doute qu'elle doit se lier aussi à un débat qui s'ouvre là aussi, et j'en suis très heureuse que c'est une position des écologistes de longue date, qui est celle du revenu d'existence, c'est-à-dire de considérer...
On a des réponses courtes.
Pardon, j'arrête.
Roselyne Fèvre.
Qui est le plus grand écologiste français? Là encore, je vous donne une piste. Laurent Fabius?
Ah, c'était ça la piste.
Voilà la réponse.
Voilà la réponse.
Non. C'est Laurent Fabius, je lui ai dit d'ailleurs, les yeux dans les yeux, ça a été un fabuleux diplomate. Et pour faire cet accord sur le climat, on avait besoin d'un fabuleux diplomate. Il a été un fabuleux diplomate. Et peut-être qu'effectivement, sans lui, il n'y aurait pas eu cet accord. Si vous voulez que je vous dise du bien de Laurent Fabius sur le travail qu'il a fait à la COP21, je peux le dire sans hésitation.
On va s'arrêter là pour la réponse. Vous êtes connue pour donner des surnoms à tout le monde. Cécile Duflot, François Hollande, c'est Potiron.
Non, ça c'est.
Manuel Valls, c'est Pépé pour le petit espagnol qui se met en colère et devient tout rouge dans Astérix. Est-ce que vous-même, vous vous donnez un surnom? Et lequel, si oui?
Enfin, on m'en a donné, parce que je tolère la réciprocité.
Et donc
un de ceux qui était, mais il se reconnaîtra, il m'avait surnommé Mafalda.
Parce que?
Vous connaissez Mafalda?
Voilà, mais pour nos auditeurs, c'est peut-être pas forcément
un épisode. C'est ce personnage d'une bande dessinée argentine, j'espère.
Argentine,
que
oui. Ouais,
qui veut jamais lâcher prise dans la discussion, en gros, en résumé.
Rachid Lairèche.
Il y a une affaire judiciaire au sein de l'équipe de France de football.
Oups.
Entre Valbuena et Karim Benzema. Vous êtes pour ou contre le retour de Karim Benzema
Alors j'ai compris que c'est un méga débat, cette histoire. Mais j'ai compris aussi, si je ne me trompe pas, qu'il y a d'autres joueurs, notamment dans l'équipe de France de handball, qui ont été condamnés ou mis en cause pour des sujets tout aussi graves et qui, eux, ne font pas l'objet de cette réprobation ou du débat sur leur présence dans l'équipe de
Nicolas
France.
Karabatic,
et alors je vais vous dire, j'ai plein d'hypothèses dans la suite de mon existence, mais sélectionneuse de l'équipe de France de foot, je crois pas. Donc je vais laisser à ceux dont c'est le métier le soin de faire ce boulot.
Alors, outre l'épisode de la robe à l'Assemblée nationale, on s'en souvient, vous avez été sifflé par les députés, votre robe était jolie. La dernière remarque machiste que vous ayez eue à supporter, après cet épisode, bien évidemment. La dernière, là.
Eh bien, je ne saurais pas vous dire, parce que j'ai une formule sur ce genre de choses. C'est « eau plume canard ». C'est plume. Un résumé de l'eau qui glisse comme sur les plumes d'un canard. Parce que franchement, sinon, ça fatigue.
Donc, vous n'en avez pas remarqué quelques-unes?
Si, sûrement, mais c'est marrant, elles ne me viennent pas comme ça.
D'accord, ouais, tant mieux.
Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous conseillerez comme sport à Manuel Valls?
Le yoga?
Le curling? C'est mon sport préféré. Et je ferais bien une partie de curling avec Manuel Valls.
Pourquoi?
Parce que ça vous fait faire ces yeux-là et que je me suis dit que ça finit bien l'émission comme j'ai que quelques secondes.
Voilà. Eh bien, c'est la fin de Mardi Politique sur le curling. Merci à vous, Cécile Duflot. Je rappelle que vous êtes députée écologiste. Merci à nos partenaires Libération et France 24. Mardi Politique, réalisation Mathias Golchani, programmation Audrey Yatoni.